honored to be asked to read a tribute to a great American, Nikola Tesla. Nikola Tesla was a great humanitarian.
Nikola Tesla était un grand humaniste.
A pure scientific genius.
Un pur génie scientifique.
A poet in science.
Un poète de la science.
He did extraordinary,
il a fait des choses extraordinaires, étonnantes, miraculeuses durant sa vie. Il les a faites simplement pour servir l'humanité.
And for his services,
pour ses services, il ne voulait rien.
He did not want anything.
De l'argent, les honneurs, la reconnaissance, il s'en fichait. Cette définition, elle a été donnée par le maire de New York, LaGuardia.
Nikola Tesla, une vie électrique. Une grande traversée de Matteo Caranta.
Je suis assez d'accord avec la définition de LaGuardia, un savant, mais pas que, scientifique, mais pas que, inventeur, mais pas que, un des pères du développement durable, père de la robotique, quelqu'un qui repose notre industrie actuelle.
Alexander Protić.
Donc c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de choses entre 1856 et 1943, qui influence d'une manière considérable notre époque.
Premier épisode, Tesla, es-tu là?
Imaginez-le en train de diriger ses ondes. Il veut diriger vers le haut. Il déclenche des orages.
Martine Lecaux.
Il dirige son engin vers le bas, vers l'intérieur de la Terre. Il déclenche des tremblements de terre. Et ça, il semble qu'il en ait vraiment déclenché. Il a fait ces expériences-là. Donc, vous voyez un peu dans l'imagination populaire ce que ça donne. Donc, Tesla a fait peur. Il a fait peur. Et lui-même a eu peur. Et je crois que ça explique sa très profonde tristesse pendant toutes les dernières années de sa vie. Et après, on a vu ça, on l'a vu représenté dans des bandes dessinées. Il était le savant fou et maléfique.
Ce qui s'est passé, c'est que je cherchais un personnage de savant.
Jean Echenoz.
J'en ai envisagé plusieurs, et puis finalement c'est un ami américain qui est l'écrivain Mark Polizotti qui m'a indiqué le personnage de Tesla, qui était, c'était il y a une douzaine, quinzaine d'années, qui était tout à fait inconnu en France, alors qu'aux États-Unis il a une gloire considérable. C'est un personnage qui m'a paru déjà possiblement un personnage de fiction. Ce qui était compliqué parce que je voulais à la fois suivre sa ligne biographique et en même temps le personnage lui-même était un personnage qui pouvait vraiment s'ouvrir à la fiction. C'est la raison pour laquelle en fait j'ai transformé son nom. C'est un personnage romanesque à tous égards. D'abord, c'est un inventeur presque surnaturel qui a déposé des centaines de brevets qu'il n'a pas exploité. En général, il s'est fait voler ses idées que d'autres ont exploitées. C'est un personnage très singulier parce qu'il est à la fois très mondain et en même temps coupé du monde, très 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 solitaire, sans vie amoureuse apparente, dormant très très peu. En même temps, extrêmement soucieux de sa personne, de son attitude, enfin, il disait, je crois, lui-même, qu'il était l'homme le mieux habillé de la 5e avenue. Enfin, Et puis, il y a sa folie particulière qui est toute une série de symptômes obsessionnels. Par exemple, le comptage systématique de ses pas, des marches d'escalier, l'obsession de certains chiffres, le chiffre 3, des comportements phobiques sur la nourriture, sur l'hygiène, la propreté, par exemple, la répulsion que lui inspirent les bijoux chez les femmes. Tout un ensemble de traits qui en font qui pourraient en faire un personnage presque caricatural. Mais cette dimension caricaturale, elle fonctionne pas parce que le parcours de Nikola Tesla, c'est un parcours tragique, quoi. C'est vraiment un drame.
Si vous vous rendez en Serbie, en Roumanie, en Croatie, ça va être un héros national. Ça va être une figure d'inventeur, oublié, redécouvert et célébré pour ce qu'il a pu apporter à ces nations différentes.
Fleur Hopkins.
Si vous allez sur Internet, vous allez voir que Nikola Tesla est un pauvre savant qui a été spolié de ses découvertes par le grand méchant Thomas Edison. Si vous regardez du côté des complotistes, vous allez voir que Nikola Tesla de son temps, il détenait une vérité secrète, qu'il a peut-être développé un rayon de la mort, qu'il a peut-être communiqué avec les extraterrestres, en tout cas qu'il était détenteur d'un savoir occulte, caché, d'un savoir supérieur. Mais surtout, l'image principale qu'on a aujourd'hui de Nikola Tesla, c'est effectivement celle d'un savant oublié, d'un savant qui a été presque méprisé par ses pairs. On a redécouvert tardivement Nikola Tesla et donc, de fait, on en a fait presque un personnage de roman, un personnage de fiction. On en a fait, en fait, un mythe.
J'ai découvert Tesla grâce à un livre, qui était le seul livre disponible sur Tesla à l'époque et dont le titre était Prodigal Genius.
Michael Almereda.
Ce livre, écrit par John O'Neill, est sorti un an après la mort de Tesla. Il a été écrit par un homme qui connaissait Tesla, qui apparemment l'aimait beaucoup et qui acceptait comme vrai toutes les choses que Tesla lui racontait. C'est un de ces livres très excitants à lire, très dramatique. Il est plein de descriptions héroïques. Il est plein de détails et de dialogues dont l'auteur n'a pu être le témoin. Il y a des dialogues entre guillemets, comme s'ils avaient été entendus, mais qui sont manifestement inventés. Il n'y a pas de notes de bas de page, et ce livre est le texte originaire et primordial. Il n'y a pas un seul livre sur Tesla qui ne s'inspire pas de cet ouvrage, même s'il remet en question certains de ses aspects. Ce livre est un livre fondamental, et pendant longtemps, il a été le seul livre, et c'est comme ça que j'ai découvert Tesla. Avec le temps, ce livre a commencé à se désintégrer en tant que récit véridique ou valide. Il est touchant, mais il n'est pas exact, et une partie de mes recherches récentes a consisté à examiner la critique du New York Times sur ce livre en 1945. Et même en 1945, la critique résumait l'histoire des aventures de ce garçon en disant que Tesla était comme un Merlin ou comme un héros médiéval.
De la manière qu'on a des fous littéraires, on a en fait un scientifique fou. Un scientifique fou au sens où c'est comme s'il avait perdu son chemin, peu importe, mais il y avait quelque chose du porteur de flambeau ici qui finit dans la pauvreté, dans la déshérence, dans la solitude, dans ses dialogues quotidiens avec les pigeons. C'est très curieux, on voit même que dans l'esprit de Tesla, il y a quelque chose du clash entre effectivement un moment de vie très compliqué et puis cette tension entre... En fait, où est encore la réalité? Où est la fiction? Où est cette projection permanente dans un futur possible? Le futur du téléguidé, du smartphone, que sais-je? Enfin, tout ce qu'il cite. Il y a quelque chose en Tesla où c'est comme s'il avait un peu perdu pied, comme s'il était effectivement aussi enfermé en lui-même et qu'il n'avait plus tellement ce discernement du fait, de la fiction, du fantasme, de la vision. Ça nous crée un flou qui explique vraiment pourquoi Tesla est devenu une figure mythologique aux mille visages, en fait.
I think Tesla was a man desperately hiding from parts of his own.
Je pense que Tesla était un homme qui dissimulait désespérément certains aspects de son existence, de son identité, et sans aucun doute de sa sexualité. Et en vieillissant, je pense de plus en plus à lui. Je le lis depuis 40 ans, depuis que je suis adolescent. Et je pense à l'étendue de son imagination en tant que physicien, à sa capacité à observer la réalité en termes de chiffres, de théorèmes, au fait qu'il pouvait mémoriser les tables de nombres premiers et qu'il connaissait cette langue. Il avait sans conteste un esprit extraordinaire. C'était une personne brillante, mais il souffrait beaucoup. Il brouillait les pistes, et beaucoup de ses particularités, comme ses excentricités ou sa phobie des germes, qui était une grande composante de son identité, démontrent pour moi une triste incapacité à faire face à la réalité. Il vivait dans sa tête. C'est ce que j'ai essayé de transmettre au travers de mon film. J'ai pris conscience qu'il était plus à l'aise avec son imagination qu'avec le réel qui l'assaillait au quotidien. Qu'il s'agisse d'argent, de sexe ou d'amitié. Il n'avait pas beaucoup d'amis et certainement peu de personnes qui lui étaient proches. Il ne se confiait pas à beaucoup de gens. Il n'était pas un bon patron. Il insultait ou haranguait ceux qui travaillaient pour lui. Il n'était à bien des égards pas héroïque, mais je continue à le voir comme un héros dans la mesure où il dédiait toute son imagination à l'illumination de l'humanité. Je pense qu'il y croyait sincèrement. Il voulait rendre la vie meilleure pour les humains, en interagissant avec la nature de manière à y puiser et à faire naître une nouvelle énergie, à transmettre de l'énergie et de la lumière. Ce sont des métaphores très littérales, et de fait, il les a accomplies. Il voulait changer de paradigme.
Alors on imagine un monsieur très grand, très mince, très droit, avec les cheveux noirs qu'il a partagés au milieu. Donc on a un peu l'impression, dès qu'il y a du vent, qu'il a un corbeau qui ouvre les ailes sur sa tête. Il faut un peu imaginer ça. Ses yeux bleus sont perçants. Et alors il a une tenue parfaite, impeccable en toutes circonstances. Donc il est très très élégant. Mais il ne s'en rend à peine compte, mais il est comme ça, lui c'est sa nature, il y a quelque chose de rigide. Et donc vous imaginez le contraste quand il a rencontré Edison, c'était un peu le choc parce que Edison, lui, plutôt très mal dégrossi, tout ça était informe pour Tesla, les vestons d'Edison étaient informes, ses cheveux étaient gras, enfin vous voyez des choses comme ça, oh là là. Il a tiré énormément les dames, énormément. Mais il déclenchait plutôt la méfiance des messieurs, alors que lui n'était pas intéressé du tout pour les choses d'amour, où il en avait peur, je pense. Et il ne voulait pas être écarté du tout de son œuvre d'ingénieur, de ce service qu'il devait à l'humanité.
Le développement progressif de l'humanité dépend largement de ses inventions, qui sont les produits par excellence de son esprit créateur. Son but ultime est la maîtrise totale du monde matériel, l'exploitation des forces de la nature pour les besoins de l'homme. C'est en cela que réside la tâche difficile de l'inventeur, qui est souvent incompris et mal récompensé. Toutefois, il trouve d'amples compensations dans le plaisir d'exercer ses pouvoirs, et dans le fait de savoir qu'il appartient à une classe exceptionnellement privilégiée, sans laquelle la race aurait péri depuis longtemps.
J'hésite à qualifier Tesla de misanthrope, mais je pense qu'il avait un vrai problème avec la vie quotidienne, avec l'acceptation de sa propre humanité et de celle des autres. Dans ses écrits, il pouvait tenir des discours très idéalistes sur l'humanité, mais il envisageait aussi parfois que ses découvertes puissent venir à bout de la race humaine. Voici une citation. « L'humanité sera comme un tas de fourmis remuées avec un bâton. » Ce n'est pas un portrait très humaniste de l'humanité. Je pense que comme beaucoup de mystiques, il était plus facile pour lui de considérer les humains comme une force abstraite qui pourrait tirer profit de ses inventions plutôt que de les considérer individuellement. Il avait aussi une sorte de fierté victorienne dans son apparence, un peu désuète, même de son vivant. Il portait des guêtres, des gants et des chapeaux haute forme. Il y avait quelque chose de faussement aristocratique chez Tesla, qui n'est pour moi pas la caractéristique la plus attrayante du personnage. Il était fringant, mais aussi un peu ridicule, parce qu'il venait d'un petit village. Il venait d'un milieu pauvre, et je pense qu'il voulait renforcer son sentiment de force et de singularité. Il était unique, mais quoi que l'on puisse dire de son génie, je pense qu'il avait besoin d'être conforté par le sentiment d'être au-dessus des autres. Ce n'était donc certainement pas un grand démocrate. Il était fier d'être citoyen américain, il était fier de son discours, mais je ne pense pas qu'il était un patron bienveillant ou un ami sympathique. Et c'est une de ses contradictions.
Mon livre sur Tesla s'appelle Tesla, portrait avec masque.
Vladimir Pistalo.
C'est un titre qui a plusieurs significations. Je vais me concentrer sur l'une d'entre elles. Tesla, à ma connaissance, n'a jamais eu d'histoire d'amour. Quelle qu'ait été son orientation sexuelle, elle est restée inaccomplie. À l'époque, au 19e siècle, c'était plus accepté que quelqu'un soit simplement asexuel. D'après ce que nous savons, il n'a jamais touché la main d'une autre personne de manière romantique, ce qui est pourtant l'un des moments les plus importants dans la vie de quelqu'un. Il n'a pas connu ça. Mais il disait, ne me regardez pas comme un homme malheureux. J'ai vécu des décennies dans le frisson de la découverte. Il prétend qu'à 30 ans et quelques, il aurait tué son énergie sexuelle. Mais il a érotisé son travail. C'est une des raisons pour lesquelles le livre s'appelle Portrait avec masque. Parce qu'il n'a pas connu l'amour. Et que sans amour, toute personne est un masque.
Je pense que Tesla, tout au long de sa vie et pour diverses raisons, est perturbé affectivement parlant.
Bernard Carlson.
Les choses ne tournent pas rond. Et le seul domaine où il peut les mettre en ordre, c'est dans le domaine technique. Il se dit, je peux donner un sens au monde de l'électricité. Je peux imaginer un excellent moteur. Je peux concevoir une merveilleuse façon d'utiliser les ondes électromagnétiques et les ondes radio pour introduire un nouvel ordre dans le monde. Et si je peux réussir à concevoir tout cela dans mon esprit et être ensuite capable de créer un système rationnel qui fasse que les choses fonctionnent, alors c'est que peut-être je ne suis pas fou. Et c'est ça le pouvoir de l'inventeur pour Tesla. C'est, je suis perturbé intérieurement, et je peux réfléchir à l'électricité et lui donner un sens. L'électricité fonctionne dans le monde comme je le pense. Alors je ne suis pas fou. Et c'est sa raison d'être. Tesla fait tout ce qu'il fait parce qu'il a besoin de créer et d'inventer. Il essaie simplement de substituer un ordre extérieur à son désordre intérieur. Et donc il essaie de changer le monde.
Je ne me précipite pas dans les travaux pratiques. Lorsque j'ai une idée, je commence tout de suite à l'élaborer dans mon imagination. Je modifie sa construction, je lui apporte des améliorations et je fais marcher l'appareil dans ma tête. Peu importe que je fasse marcher ma turbine dans mon mental ou que je la teste dans mon laboratoire. Je peux même savoir quand elle ne fonctionne plus correctement. Cela ne fait aucune différence pour moi. Les résultats sont les mêmes. C'est ainsi que je peux développer et perfectionner rapidement un concept sans toucher à la matière. Lorsque je suis arrivé au point où j'ai intégré dans mon invention tous les perfectionnements que je puisse imaginer et que je n'y vois plus rien qui ne soit parfait, je passe à la concrétisation de ce produit final élaboré dans mon cerveau. Invariablement, l'appareil fonctionne tel que je l'avais imaginé et les expérimentations se passent exactement comme je les avais prévues. Cela fait 20 ans que je fonctionne comme cela, sans qu'il n'y eût jamais d'erreur. Et pourquoi en serait-il autrement ?
Bien, nous nous trouvons au musée d'art moderne de la ville de Paris, devant la Fée Électricité. On estime que c'est un des plus grands, sinon le plus grand tableau du monde, 600 mètres carrés. Alors cette fresque, elle a été réalisée par Raoul Dufy et c'est une commande.
Patrice Carré.
C'est du mécénat de la Compagnie parisienne de distribution d'électricité. Et à l'occasion de l'exposition universelle des arts et des techniques de 1937, la dernière grande exposition avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on demande à Dufy d'illustrer l'histoire de l'électricité. Alors pour faire cela, il s'appuie beaucoup sur la littérature de vulgarisation scientifique du 19e siècle et notamment les ouvrages de Figuier, Les Nouvelles Merveilles de la Science. Et puis il va demander à un certain nombre de comédiens du théâtre français de venir poser pour représenter tel ou tel personnage de cette saga, de cette grande histoire de l'électricité. Alors, il faut pas le voir comme un tableau représentant l'histoire de l'électricité. C'est plus une légende, c'est plus un mythe, une saga. Moi, j'aime bien le mot de saga. Si on le prend de façon chronologique, on part effectivement de la droite. On voit Aristote, on voit Thalès de Milet, on voit des Grecs, si vous voulez, des philosophes. Et puis, peu à peu, on voit le Moyen-Âge, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, avec les expériences de Franklin sur le cerf-volant, les éclairs. On voit un certain nombre de discussions entre savants au XVIIIe siècle, dans les fameux cabinets de physique et les cabinets de curiosité. Et puis, peu à peu, on voit arriver la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, avec effectivement Volta, avec un certain nombre de chercheurs. Et puis, on passe au XIXe siècle, où l'on voit là vraiment l'essor de la science et de la recherche dans le domaine de l'électricité. On voit bien l'ensemble des savants. Alors, on peut prendre quelques noms comme Kelvin, Morse, Baudot, ceux qui sont en face de nous. Par exemple, on est devant lui, on voit Edison. Alors Edison, c'est un personnage. Edison, c'est un personnage qui n'est pas seulement un chercheur, c'est un businessman, mais c'est aussi un héros de roman. Dans ce tableau, il y a quelqu'un qui est totalement absent. On ne le voit pas, il n'y a même pas son ombre, c'est Nikola Tesla. Il n'est pas là. Alors, on est en 1937. Nikola Tesla est tombé dans une sorte d'oubli. Il a été très célèbre d'une certaine façon. Il a animé le débat. On a beaucoup parlé de lui dans la presse dans les années 1880, avant la Première Guerre mondiale globalement. Et ensuite, il est tombé dans une sorte d'oubli parce que ses inventions et particulièrement ses brevets sont mal ficelés. Et je pense qu'à ce moment-là, il est dans une période de repli qui est peut-être due aussi à un dysfonctionnement psychologique qui est évoqué par un certain nombre de biographes de Tesla.
Tesla a une identité très très ambiguë entre être un ingénieur comme Edison, qui n'a jamais été reconnu vraiment comme un scientifique, mais qui est un ingénieur et un inventeur. Et puis le milieu des scientifiques académiques, ou académiciens même.
Bernadette Benso de Vincent.
Tesla me semble être quelqu'un qui a voulu être reconnu par les deux milieux, les milieux académiques, et par exemple à Londres, il a été très bien accueilli quand il a fait ses expériences à la Royal Institution. Et il me semble que Lord Rayleigh, qui est l'un des grands scientifiques de l'époque, a dit « mais c'est un découvreur et pas simplement un inventeur ». Et il était très fier de cela. Mais en même temps, il était plus un inventeur qui s'empressait de faire breveter toutes les étapes de ses découvertes plutôt que de publier des articles scientifiques. Donc, il est à la charnière entre le milieu des ingénieurs et le milieu des découvreurs, c'est-à-dire des scientifiques. Et il a été boudé par les scientifiques d'une certaine manière.
Je ne crois pas que Nikola Tesla ait été un incompris. je crois que son travail a pu être rejeté par les libertés peut-être qui prenait par rapport à la démarche scientifique traditionnelle. Il a été rejeté par la communauté scientifique. En ce sens, oui, il a été sans doute incompris, mais cette incompréhension est sans doute liée au côté marginal du personnage aussi, parce que toutes les centaines d'inventions qu'il a mises au point, enfin, la plupart ont été exploitées. Je veux dire, il a fait considérablement avancer les choses sur le plan scientifique et technique. Donc, incompris, je ne sais pas, rejeté, certainement. Rejeté, mais à cause sans doute du caractère trop démonstratif et peut-être apparemment pas sérieux de ses présentations. Et le fait qu'il a pu être considéré presque comme un homme de théâtre, beaucoup plus qu'un savant efficace, alors qu'il combinait précisément les deux.
Mesdames et messieurs, et maintenant la théorie, un des miracles de notre temps, ici au Royal Albert Hall de Londres. Une merveille technologique. Vous n'avez encore rien vu de semblable de toute votre vie, vous n'en croirez pas vos yeux. Le miracle de Nikola Tesla. Une énergie gratuite et propre. Vous voulez rencontrer l'avenir, monsieur ? L'homme en train de parler va changer le monde. Entrez, mesdames et messieurs, entrez tous. Place assise garantie, aucune attente.
C'était un personnage, il était unique, mais c'était aussi un grand showman. C'est ce qu'il avait en commun avec Thomas Edison et avec quelques autres personnes du moment. Mais nous devons nous rappeler qu'il était très célèbre, il était incroyablement respecté et pouvait réunir une foule de 2000 personnes pour donner une conférence scientifique. Je ne connais personne aujourd'hui qui soit capable de réunir un tel public. Il avait de formidables dons et avait une intuition scientifique hors du commun. Mais c'était aussi un grand mystificateur qui produisait des illusions.
Est-ce que c'est un illusionniste ? Alors, c'est un grand débat qu'on pourrait avoir. Je pense que c'est plutôt un mystificateur, au sens où il a quelque chose de la séduction par la parole, de la séduction par ce qu'il va montrer, des effets lumineux, des effets où il va notamment demander aux spectateurs de venir sur scène, de lui tenir la main et de montrer que les courants n'ont rien de dangereux. Mais il a surtout un discours profondément scientifique. Donc vouloir résumer Tesla à un prestigitateur ou à un magicien, c'est un terrain glissant. Et on voit bien que quelqu'un comme Christopher Nolan, quand il va s'attacher à la figure de Nikola Tesla dans son film Le Prestige, hein, l'apparition de Nikola Tesla dans le film est incroyable, puisqu'il arrive en étant traversé de toutes parts par un courant absolument électrisant, j'allais dire, un courant très fort, dont on imagine qu'il aurait pu tout simplement le réduire en poussière. Ce n'est absolument pas le cas. À de nombreuses reprises, et là ça nous renvoie évidemment à la guerre des courants, hein, Nikola Tesla voulait dire non, contrairement à ce qui est dit, les courants alternatifs ne sont pas dangereux, regardez, je peux tout à fait me faire bombarder d'un courant à une hauteur de 250 000 volts et je suis encore devant vous, et mieux, j'irradie, je suis presque une apparition. On est à une époque où on va faire tourner des tables, on est à une époque où on découvre les tout premiers balbutiements du phonographe, donc il y a quelque chose de magique, de fascinant, de séduisant à voir cet homme irradié de toutes parts et surtout survivre à cette expérience qui aurait dû le tuer tout simplement.
Au XVIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle la culture des curiosités, avec des cabinets de curiosités dans lequel on faisait voir des choses, des coquilles extraordinaires, et des belles choses. Voilà. Et donc ça, c'était la culture des curiosités qui a été relayée au XVIIIe siècle par ce qu'on appelle la science de salon. Et d'une certaine manière, Tesla a fait un peu de la science de salon.
Les gens se rendaient dans les laboratoires des inventeurs en pensant que c'était les portes du paradis. Ils leur demandaient « Qu'avez-vous de nouveau pour nous ?» Et ce qui était nouveau était forcément bien. Mais essayez de comprendre. Le monde a connu moins de changements de l'époque de Platon à celle de Tesla qu'entre la naissance et la mort de Tesla. Donc les gens se rendaient dans son laboratoire à la recherche de nouveautés et il organisait des performances scientifiques. Vous savez, il était vraiment comme un saint, comme un mage. N'oublions pas que pendant qu'il faisait ces choses scientifiques, on l'accusait de faire du cirque. On l'a toujours accusé de ça parce qu'il n'a jamais publié dans une revue scientifique. Je crois qu'il les trouvait ennuyeuses. Il préférait s'adresser directement aux journalistes. Il était convaincu qu'on pouvait s'adresser aux gens normaux en utilisant un langage plus ou moins normal. Mais il est le seul mortel à avoir créé des éclairs.
Moi, ce qui me frappe dans l'œuvre de Tesla, c'est que lui-même se met en scène. C'est-à-dire que c'est lui qui est en scène et qui, dans chaque main, tient des ampoules et fait passer le courant à travers lui. Il est lui-même l'homme du spectacle et il se met en lien avec les forces de la nature pour produire du spectacle.
Là, on touche à l'invisible. On touche à l'électricité, on touche à l'onde, on touche à quelque chose qui ne se voit pas. Et donc, évidemment, il y a cette idée que les savants sont parvenus à dompter. C'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans les journaux. Il tamed, il a dompté, il a surpassé cette idée que l'homme s'est arraché à sa condition charnelle, faillible, pour en fait tout simplement enchaîner la fée électricité. Il est parvenu non seulement à la rendre visible, mais à la rendre opérante pour une société qui donc dépasse tout simplement la société plus archaïque qui fonctionnait notamment à la vapeur.
La charge imaginaire de l'électricité en 1881, c'est clairement la magie, c'est l'inouï, c'est la fée. Et puis, en 1900, à Paris, il y a un palais de l'électricité, et c'est là où Paul Morand, justement, va écrire ses lignes merveilleuses sur la fée électricité, sur la tour Eiffel et ses lumières. Il y a toute une poésie, si vous voulez. On est sur quelque chose que l'on n'avait jamais connu auparavant. Une force, mais qui en même temps éclaire, qui donne un jour nouveau. Et puis, on va le voir à Chicago en 1893, où, pour la première fois, le courant alternatif dû à Tesla et industrialisé par Westinghouse va complètement éclairer l'exposition de 1893, l'exposition colombienne à Chicago.
Dans les expositions universelles, ce n'est pas la science qu'on met à l'honneur. Le progrès scientifique et technique qu'on célèbre dans les expositions universelles, dans les conférences à la Royal Institution, ou dans les conférences, ou dans la vulgarisation scientifique, c'est essentiellement le progrès technique. La science n'est là que parce qu'elle est en amont des techniques. Mais l'électricité, c'est un domaine où les ingénieurs sont en avance sur la science. Ils sont en avance pourquoi ? Parce qu'on sait produire des effets électriques et on ne sait pas encore expliquer. Autrement dit, le faire précède le connaître. Et les ingénieurs, ils sont à la frontière entre le faire et le connaître. Et tout le monde de Tesla, c'est cela. C'est le monde de « je vous fais voir des merveilles ». Acceptez de les voir et on saura les expliquer.
Ce qui est intéressant, c'est que la transition technique qui s'effectue dans la première moitié du 19e siècle se fait avec des technologies visibles. Elles sont mécaniques. On peut observer le fonctionnement de la locomotive. On peut voir la façon dont les machines à textile fonctionnent. On peut voir la manière dont l'acier est fabriqué dans les hauts fourneaux rugissants de Pittsburgh. En revanche, l'électricité, elle, est invisible. C'est une force que les gens ne peuvent pas voir. Et ils ont besoin d'images et de métaphores pour pouvoir se la représenter. C'est l'une des raisons qui rend Tesla remarquable. Il est tout le temps en train de chercher des solutions, tout le temps en train de se demander « Comment puis-je vous parler de l'électricité ? Comment puis-je faire en sorte que vous en ayez une représentation concrète ? Comment puis-je vous convaincre ? Non en théorie, mais en pratique ? Comment cela va-t-il vous permettre, vous, M. George Westinghouse, l'homme d'affaires, de faire de l'argent ? Comment cela va-t-il fonctionner ? Comment cela va-t-il changer votre vie quotidienne ? Une des composantes extrêmement importantes du métier d'inventeur est de devoir lutter avec la nature. Il faut composer avec les éléments. Comment donc faire en sorte que l'électricité fasse ce que vous désirez qu'elle fasse dans une machine, comme un moteur, par exemple ? Mais en même temps, il faut aussi se demander comment faire pour que les gens y accordent de l'attention, comment faire pour qu'ils comprennent que ce que vous avez fait avec l'électricité est vraiment important, comment leur faire comprendre que vous méritez salaire et reconnaissance. Tesla sera l'une des premières célébrités dont on parlera dans les journaux.
Ils arrivent à dompter l'insaisissable, mais ils arrivent surtout à donner à voir cet insaisissable. Et là, en disant ça, je pense effectivement au caractère totalement fascinant de Tesla, qui est celui d'un showman. On est à une période où on va pouvoir aller sur les champs de foire, voir quantité d'instruments saisissants, comme par exemple des écrans fluorescents pour voir à l'intérieur des corps après 1895. Mais Tesla, dès les années 1890, il avait bien compris qu'une manière de diffuser, de retenir l'attention et de fasciner non pas seulement le quidam, mais précisément les investisseurs et puis ses pairs, c'était d'épouser une manifestation scientifique, un phrasé scientifique qui allait épouser le théâtre. Et bien Tesla, tout simplement, il entend fasciner. N'oublions pas qu'on est à une époque où la parapsychie nous dit que certaines personnes dotées du pouvoir de l'hypnose, ils ont le fascino, ils ont le regard qui fascine, le regard qui séduit. Et précisément, quand Tesla se présente dans son beau costume noir et blanc et qu'il saisit des gaz raréfiés et qu'il est capable de les illuminer, imaginez bien que ça a un effet absolument saisissant sur les foules. On a souvent l'évocation de ses yeux qui brûlent comme deux feux ardents. Donc cette idée même que Tesla est devenue la matière même qu'il manipule.
Je pense qu'il est à cheval sur les siècles et il a une pratique scientifique qui rappelle celle du XVIIIe siècle et il a fait des découvertes qui seront exploitées au XXe siècle. Mais ce qui est, il est vraiment un homme de son temps quand même. Pourquoi ? Parce qu'il joue. Il joue avec les ondes électromagnétiques et c'était le grand sujet du tournant du 19e au 20e siècle. Et c'est ça qui a rallumé le merveilleux dans les sciences. C'est vraiment cette force inconnue qui produit des effets, parce que l'électricité et le magnétisme produisent des effets, et des effets sensibles, des étincelles, des décharges puissantes, et des vibrations très puissantes. Et en même temps, c'est mystérieux, on ne sait pas les expliquer. Et Tesla est vraiment quelqu'un de cette culture-là, cette culture de l'électromagnétisme au tournant du 19e et du 20e siècle, qui a fasciné et qui a, si je peux dire, qui a d'une certaine manière réconcilié, renoué le corps humain avec les forces de la nature. Thank you.
À toute allure, on se met à se l'arracher. Pleuvent subitement sur lui les honneurs et les décorations. Les gouvernements étrangers recherchent ses services. On l'appelle magicien, visionnaire, prophète, génie, prodigue. On le désigne plus grand inventeur de tous les temps. Il devient courtisé par la bonne société new-yorkaise, industriel et financier, directeur de journaux, administrateur d'université, écrivain, acteur, musicien, poète, sculpteur, politicien, président, roi, tout ce qu'on veut. Mais de tels faits aussi, dans le milieu scientifique, passent mal. Les dents grincent du côté des sociétés savantes, d'où un nouveau son de cloche, revers de la médaille et contrepoint classique du succès. On se met à le traiter de charlatan, d'autant plus rapidement et volontiers qu'il aime beaucoup paraître, accéder au statut de personnage public, parader et se vanter dans les journaux, péché que ses collègues scientifiques apprécient peu, ne pardonnent pas. Ce qui est frappant, c'est cette opposition, en fait, cette discordance entre la rigueur scientifique et le caractère un peu hallucinatoire de ces démarches, le fait qu'il ait un rapport à la réalité qui semble presque pathologique et qui en même temps, vu l'efficacité de ses recherches, de l'aboutissement de ses travaux, est tout à fait rigoureux. Donc il y a une espèce de boiterie psychique pratiquement. Chez lui, enfin, c'est ce qu'on peut imaginer, mais encore une fois, c'est toujours compliqué d'essayer de reconstruire une personnalité à partir de ce qu'on peut recueillir d'un personnage aussi secret. Moi, c'est ça qui me troublait beaucoup dans cette affaire. C'est ce mélange de rigueur et de dérive un peu presque délirante par certains côtés.
L'autobiographie de Tesla a été publiée sous la forme d'une série de souvenirs épars et d'autoportraits. C'est le livre d'un homme qui, depuis son âge avancé, se remémore sa jeunesse. C'est un livre plein de rancœur, plein d'amertume, ce qui ne l'empêche pas d'être divertissant. Je dirais que c'est davantage le reflet de ce qu'il estime être sa propre image qu'un véritable autoportrait. Mais même s'il se dépeint comme une sorte de Superman dans ses récits qui mettent en valeur ses talents, son don pour l'invention et sa faculté à être en avance sur son temps, ce qui au passage est vrai, Tesla souffrait en parallèle d'avoir essuyé un cuisant échec qui a blessé son amour-propre. Et donc, tout en lisant le livre, on peut s'amuser à confronter ces récits avec cette réalité plus contrastée.
Une des figures clés qui gravitent autour de Nikola Tesla à cette époque, c'est Hugo Gernsback. Hugo Gernsback, on le connaît le plus souvent comme ayant été un des théoriciens, un des fondateurs de la science-fiction aux États-Unis. En 1926, il va forger le terme « science fiction », en 1929, celui de « science fiction », et puis surtout, il aura de très nombreuses revues, comme « Science Wonder Stories », comme « Amazing Stories », etc., où il va publier à la fois des articles de vulgarisation scientifique, et puis des fictions, des revues qu'il mettra sous la bannière de Verne, de Poe, de Wells. Eh bien, dans la revue « The Electrical Experimenter », où il va publier l'autobiographie de Tesla en 1919, il s'avère qu'il y avait aussi des récits de conjectures.
Après la Première Guerre mondiale, Tesla n'a plus d'argent. Et Gernsback propose d'acheter ses droits sur sa biographie. Et donc, Tesla raconte l'histoire de sa vie, dans une série d'articles qui paraissent dans plusieurs numéros différents. Et pour que le premier numéro se vende bien, on met un portrait de Tesla en couverture. Et le titre dit « Le premier épisode de l'incroyable vie de Tesla ». Et ça marche bien pour l'Electrical Experimenter. Mais c'est écrit pour de jeunes lecteurs, et Tesla structure l'histoire pour en faire une histoire initiatique.
Tout simplement, Tesla, il nous raconte une histoire, son histoire propre, et dès lors qu'il raconte une histoire, évidemment, il choisit les épisodes, il choisit des événements marquants, des événements qui vont tout simplement participer de sa future aura de grand inventeur, hein, puisqu'il va nous raconter, par exemple, qu'il est né pendant un orage, et que sa mère aurait dit ce sera un enfant, effectivement, de la lumière et non un enfant des ténèbres. Il nous raconte de même qu'il a découvert tout simplement le principe de l'électricité statique en allant frotter son chat Macat. Donc voilà, on a quantité d'anecdotes qui ne sont précisément pas anecdotiques. Elles sont là pour mythifier le personnage, pour construire sa mythologie personnelle.
Pour moi, qui écrivais un livre fouillé sur Tesla, cette autobiographie était très importante. Mais il m'a fallu longtemps avant de comprendre comment la lire et de comprendre qu'elle n'était pas toujours factuelle. Cette autobiographie est très soigneusement organisée et Tesla y déroule sa propre mythologie. Mais ce qui est essentiel dans ce livre, c'est de saisir la vérité affective que Tesla livre dans cet ouvrage.
Un jour, alors que j'errais dans la montagne, je dus me mettre à la recherche d'un abri car l'orage menaçait. Le ciel s'était couvert de lourds nuages, toutefois la pluie ne tomba pas avant qu'un violent éclair ne déchira le ciel. Quelques instants plus tard, ce fut le déluge. Ce spectacle me fit réfléchir. Il était manifeste que les deux phénomènes étaient intimement liés comme cause et effet, et j'en vins à conclure que l'énergie électrique impliquée dans la précipitation de l'eau était négligeable, l'éclair ayant ici fonction de déclencheur sensible. Voilà un domaine qui offrait d'énormes possibilités. Si on arrivait à produire des effets électriques de la qualité voulue, on pourrait transformer toute la planète et nos conditions de vie. Le soleil fait s'évaporer l'eau des océans et le vent l'emporte vers des régions lointaines où elle reste dans un état d'équilibre précaire. Si nous avions le pouvoir de perturber cet équilibre, où et quand bon nous semble, nous pourrions manipuler à volonté cet énorme fleuve qui entretient la vie. Ce serait le moyen le plus efficace de mettre l'énergie solaire au service de l'humanité. Il faudrait pour cela développer des forces électriques du même ordre que celles qui apparaissent dans la nature. L'entreprise semblait décourageante, mais je pris la résolution de la tenter.
C'est très difficile à cette époque-là de vraiment distinguer ce qui est de la conjecture et ce qui est véritablement de la prophétisation et de la vision scientifique. Nikola Tesla, c'est un personnage de l'entre-deux. Et évidemment, Tesla, il était vraiment au diapason, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots de tout ça, puisque lui-même était perclus de ces fameuses hallucinations, hein, de ces chocs visuels, de ces lumières qui, effectivement, le travaillaient. Et donc, il y avait cette idée toujours qu'il y a un monde dans le monde, il y a quelque chose aussi en soi qui se passe et qui peut apparaître de manière extérieure. La plus célèbre vision de Tesla, hein, c'est lui qui se promène dans un parc à Budapest et qui tout d'un coup, comme une vision mariale presque, voit son fameux moteur à induction qui se présente devant ses yeux de manière totalement comme une illumination, mais une illumination devant ses yeux. Enfin, c'est très très fort comme image en fait. Et de fait, il y a quelque chose chez Tesla effectivement de l'émerveillement pour l'électricité, l'émerveillement pour les phénomènes invisibles, mais aussi cette idée du réenchantement, à la fois réenchanté en remettant quelque chose de, non pas d'une pensée magique, mais d'une capacité à croire en l'incroyable, je dirais. Puisque quand Tesla va marteler tout au long, vers la fin de sa carrière, après les années 1890, que la Terre pourrait transporter une énergie électrique et donc alimenter la totalité du globe, on est dans une forme effectivement presque de croyance, presque de foi. Et on voit bien que dans les dernières années d'existence de Tesla, on va beaucoup lui reprocher ce versant de presque de mysticisme en fait.
Dans la parabole de Platon, la plupart des gens voient des ombres.
et nous sommes dans la caverne alors qu'il y a du soleil dehors, mais que personne n'y va. Nous ne connaissons que les ombres qui sont une forme de masque. Vous pouvez imaginer Tesla comme quelqu'un qui sortirait au soleil et dirait « Écoutez, écoutez tous, toutes ces choses que nous pensons être la réalité ne sont en fait que des ombres. » Bien sûr, cette personne ne serait pas très populaire, ce qu'était Tesla d'une certaine manière. La lumière a eu un rôle important dans sa vie. Il avait ces prises de conscience par flash. Et ces flashs étaient comme des filtres dorés qui passaient devant ses yeux. Il flottait comme ça dans la lumière. Et ensuite, il y avait ses révélations. C'est très mystique. Tesla est devenu une figure mythique, pas seulement sa personne, mais aussi dans ce qu'il inspire aux gens qui parlent de lui. Et souvent, c'est bien pire que ce que je vous raconte. Je vous parle d'un type qui était mystique. Bon, rien de grave. Mais il y a des gens qui prétendent qu'il venait de Vénus ou qu'il était un extraterrestre, enfin des choses comme ça. Oublions tout ça. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Et une grande partie de mon travail a consisté à conserver la magie et à la débarrasser de l'inutile.
Le scepticisme à l'égard de Tesla a grandi dans les années 30. Je pense que c'est lié à ce refoulement du merveilleux. C'est lié à ce refoulement par les milieux scientifiques de tout ce qui est occulte. Les années 1930, c'est les années du regain de rationalisme. La science devient effectivement beaucoup plus méfiante, sceptique, critique à l'égard de tout ce qu'elle ne peut pas expliquer. Et la tendance des années 30, c'est une tendance à déclarer comme non scientifique tout ce qu'on ne peut pas expliquer.
Est-ce qu'il y croyait vraiment ? Oui et non, on ne saura jamais. Effectivement, dans les décennies qui suivent, il va dire « Mais moi, j'ai inventé un appareil qui communique avec les Martiens. » Il va le dire à de nombreuses reprises. Mais est-ce que c'est un effet d'appel ? Est-ce que c'est un effet de séduction ? Ou est-ce qu'il était vraiment partisan de cela ? Dès qu'on parle de Tesla, on parle d'un personnage. On parle d'un protagoniste, on parle de quelqu'un qui lui-même a fictionnalisé sa vie au point d'en faire une mythologie personnelle. Donc il me paraît quasiment impossible de redécouvrir Tesla aujourd'hui sans être pris au jeu de lire un roman, de lire le roman qui serait celui de la guerre des courants, qui serait celui du rayon de la mort, peu importe ce qu'on lit, mais on est pris, bien malgré soi, dans un roman.
Tesla est un personnage fascinant. Nous projetons énormément de choses sur lui. Nous lui faisons porter nos désirs et nos rêves. Et les gens choisissent la version de l'histoire de Tesla qu'ils aiment ou celle qui reflète le mieux leurs idées. Pendant les 15 années durant lesquelles j'ai travaillé sur le livre, j'ai souvent rencontré des fans de Tesla. Et dès qu'ils entendaient dire que j'écrivais un livre sur Tesla, ils s'écriaient « Oh, mais c'est génial !» Puis ils me racontaient leur anecdote préférée de la vie de Tesla. Je vais alors un peu regarder mes chaussures et leur dire que ce n'était pas tout à fait exact. Mais au bout d'un moment, je me suis dit « Finalement, je ne vais pas leur briser le cœur. » Je me disais « Après tout, vous pouvez tout à fait avoir votre Tesla fait de toutes pièces et plein de mythes si cela vous rend heureux. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un Tesla basé sur des faits réels, basé sur de multiples sources, des archives, des journaux, des lettres, des brevets. Sachez que tout ce qui se trouve dans ma biographie sur Tesla est basé sur des faits réels. »
Martine, je me permets, je relis le texto que vous m'avez envoyé il y a 2 jours.
Oui.
Vous m'avez dit... « Bonjour Mathéo, comment allez-vous ? » Vous m'avez dit « Donc hier soir, il y a eu un échange avec Nicolas qui semble d'accord pour dialoguer avec vous. Voudriez-vous préparer quelques questions à lui poser ?»
Oui.
« Je l'ai interrogé un peu de mon côté et vous montrerai ce que cela donne. »
Oui.
Alors Martine Lecaus, j'ai évidemment réfléchi à
une ou deux questions.
Je voulais savoir ce que ça avait donné.
Oui. Donc, vous savez que Bon, il n'aimait pas du tout l'idée de spiritisme ou de choses comme ça. Bon, mais j'avais quand même essayé un jour. Et puis, à ma grande surprise, il avait j'ai eu le message « Nicolas, d'accord, faire voyage avec Martine ».
Alors racontez-moi, Martine Lecos, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il faut qu'on procède?
Eh bien, j'ai disposé la planche, enfin simplement je l'ai posée sur la table devant moi, et puis c'est tout simple, j'ai des feuilles à ma droite, puisque je suis droitière et non ambidextre, comme Nicolas a dit qu'il était, lui, gaucher et puis ambidextre, mais il a une écriture très penchée à droite, une écriture de passionné. Moi aussi. Et j'écris la date, ça c'est simplement le 3 mars 2022. Moi j'écris toujours, mais vous savez, personne ne m'a rien appris, je fais comme ça. Alors, c'est mal écrit, mais peu importe, avec Nicolas. Voilà. Et puis, eh bien, je prends dans mon petit téléphone, c'est un petit téléphone en cuivre, je pense. Je prends mon pendule qui est rangé là, mais vous voyez qu'il est toujours là. Voilà, et puis ensuite, ben, je vais demander à Nicolas s'il est prêt, enfin, s'il veut bien venir nous parler ou non. Mais vous voyez, il n'y a rien de tout spécial, c'est tout simple. Je ne fais rien de spécial, il n'y a pas de... Alors, Nicolas, vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de demander, il me dit déjà oui. Je crois qu'il y a un F, faire. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller au bout du mot, parce que je l'ai entendu. Faire. Là, je crois qu'il dit expérience. Donc je vais au X tout de suite, mais je veux bien vérifier. Est-ce que c'est bien le mot expérience? Oui. Grand intérêt, Nicolas, faire expérience. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que vous voulez bien que Matteo vous pose une question? Oui? Ben alors, on écoute Matteo.
Alors, moi, je voudrais savoir si vous préférez qu'on raconte votre histoire vraie ou votre histoire imaginaire.
C'était Nikola Tesla, une vie électrique. Premier épisode. Tesla, es-tu là? Avec Alexander Protich, Jean Echnoz, Fleur Hopkins, Michael Almereda, Martine Lecos, Vladimir Pistalo, Bernard Carlson, Patrice Carré et Bernadette Bensaud-Vincent. Lecture des textes de Nikola Tesla par Olivier Martineau. Lecture des éclairs de Jean Echnoz par l'auteur. Bruitage, Machine Tesla. Doublage, Raphaël Kraft et Nicolas Champeau. Prise de son, Ludovic Auger, Morgane Danan et Hélène Langlois. Mixage, Marie Lepeintre. Attaché de production, Marie Viguier. Documentation, Annie Signoret et Antoine Guyoz. Coordination, Christine Bernard. Grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Rafik Zenine.